Géographe et ancien professeur à l'école normale d'instituteurs d'Auch, Robert Sourpe vient de sortir un livre qui a pour thème « Regard sur la Gascogne gersoise ». Robert Sourpe, au micro de Pauline Cazier, nous parle de son livre et du regard porté par les écrivains sur ce département.
Robert Sourpe, bonjour. Alors, vous êtes géographe, vous avez été professeur de géographie à l'école normale.
Histoire et géographie, parce que les deux disciplines sont étroitement imbriquées dans l'enseignement secondaire. Et j'ai été professeur à l'école normale depuis l'année 1969. Et donc, j'ai fait une grande partie de ma carrière dans cet établissement. Et lorsque cet établissement a disparu, en 1991, là, j'étais déjà engagé dans une thèse, et donc cette thèse m'a permis de devenir maître de conférence. Alors là, spécialisé en géographie, puisque je préparais les étudiants à ce moment-là dans cet exercice difficile qu'ils tentaient, c'est-à-dire le CAPES. Voilà.
Alors aujourd'hui, je vous rencontre pour votre livre « Regard sur la Gascogne gersoise » édité l'année dernière aux éditions Cairn. Un regard qui concerne particulièrement, sur les spécificités du paysage de la Gascogne, du paysage gersois.
Oui. Donc c'est le territoire gersois qui m'a intéressé, d'une part parce que j'y vis. Et même bien avant d'être professeur, je faisais mes études à Auch, donc dans le cadre aussi de l'école normale. Alors, il est évident que c'est un parcours de vie qui m'a incité à travailler sur le regard. Ce regard, c'est essentiellement le regard collectif. Ce n'est pas seulement le regard d'un tel ou un tel, mais comment, par des sources différentes que j'ai sollicitées, l'image d'un pays se précise dans un sens qui peut être défavorable, dans un autre sens qui peut être au contraire très favorable. Et cette enquête que j'ai réalisée m'a d'ailleurs amené à voir des regards extrêmement différents. Dans la littérature surtout. J'ai beaucoup utilisé la littérature parce que la littérature traduit aussi cette image que l'on a d'un pays, et en particulier la poésie. Et la poésie est peut-être l'essence maximale de la manière dont ce regard collectif s'est appuyé sur ce territoire.
Et on peut commencer par une figure gersoise, Salluste du Bartas.
Oui. Alors, j'ai commencé par Salluste du Bartas parce qu'il est présent dans la mémoire collective, mais ce n'est qu'un nom.
On peut situer déjà à quelle époque ?
Alors, il s'agit du XVIe siècle. Et il s'agit d'un contemporain de Ronsard, de la Pléiade. Donc, il faut quand même voir l'importance de ce personnage à l'époque. Son œuvre est une œuvre religieuse, mais le XVIe siècle est un siècle profondément religieux qui a entraîné aussi cette passion, puisque hier soir on parlait sur Antenne 2, on parlait de la Saint-Barthélemy. Donc ce poète est contemporain et même il a dû, je pense, connaître des troubles à Toulouse, où c'était même avant la Saint-Barthélemy, où des milliers de protestants seront pourchassés, tués. Et il a dû fuir à ce moment-là pour retrouver sa belle terre du Bartas, qui se trouve entre Cologne et Mauvezin.
Est-ce qu'on peut dire qu'il a influencé des poètes d'autres pays européens ?
Oui. On peut dire qu'à la suite de cette poésie, des poètes comme Le Tasse, comme Milton aussi, en Angleterre, ont été sensibilisés, car quand même, son œuvre a été diffusée, a eu des éditions dans des langues multiples, pas seulement, mais en latin. Bon, ça, c'était normal, c'était l'anglais de l'époque. Mais aussi en espagnol, en italien, en allemand. Donc, vous voyez quand même. Et c'était quelqu'un que le roi, donc Henri IV, c'était un proche d'Henri IV, un proche de cette cour qui se réunissait soit à Pau, soit surtout en Érac. Et donc, c'est quelqu'un qui aussi avait été reconnu comme poète par ce qu'on appelait la Florette, et qui était donc attribuée annuellement à la meilleure œuvre de poésie, mais en gascon.
Vous parlez de Nérac. Alors, Nérac se rapproche de la figure de Marguerite de Navarre.
Oui, de Marguerite de Navarre et sa fille, surtout Jeanne d'Albret, qui a eu une importance considérable. Et bien sûr, la réforme pénètre au fond par ces deux, le Béarn d'une part, et par aussi l'Albret, mais pénètre même très fortement le Gers, puisqu'elle s'implante dans tous les territoires qui dépendaient des Albret, et Mauvezin en est un, dans lequel il y a encore un temple protestant aujourd'hui.
Alors on va avancer de plusieurs siècles avec une autre figure importante qui est Monsieur de Pesquidou, Joseph de Pesquidou, c'est ça ?
Joseph de Pesquidou est quelqu'un, bon, c'est, là nous ne sommes plus au XVIe siècle, nous sommes à la fin, même au début du XXe siècle, dans lequel la Gascogne connaît une crise depuis au moins un demi-siècle, une crise qui a entraîné le départ d'une grande partie de ses habitants. Bien sûr, ce sont essentiellement des pauvres gens. Il est évident que la révolution industrielle, qui commence à toucher d'abord ces artisans du textile, qui complétaient un tout petit peu leur revenu, qui étaient essentiellement des gens sans terre. Donc, bien sûr, ils sont partis les premiers. Et le Gers perd ses habitants pratiquement pendant au moins un siècle et demi. Et il y a quand même une crise sociale. Et là, bien sûr, l'ambition d'un Joseph Pesquidou, c'est de faire revenir au pays pour montrer cette civilisation et surtout empêcher que ce pays ne meure. Et c'est ça l'angoisse de Joseph de Pesquidou. Donc il écrit, bien sûr, c'est surtout dans certaines de ses œuvres, il renvoie un peu en arrière à cette civilisation, une belle civilisation dans laquelle il y avait des rites. Il y avait surtout une structure sociale qui était largement diffusée sur l'ensemble du territoire, celle du château, d'une part, et de la métairie, ce que nous voyons encore dans le paysage actuel. Mais, si vous voulez, ces familles étaient des familles stables qui se transmettaient. Et la crise, elle est, c'est presque une crise qui touche les structures de transmission aussi des domaines. Les domaines rapportent de moins en moins, et surtout, il y a la crise phylloxérique qui va entraîner quand même des dégâts considérables sur le terroir. Donc, c'est l'angoisse, en quelque sorte, de la friche, du départ des hommes, et alors que il y a une belle terre qui nourrit bien ses habitants. Tout à l'heure, je parlais de Salustre du Bartas. Mais Salustre du Bartas voyait son pays comme l'Éden, comme le paradis. Pourquoi ? Parce qu'il est dans le projet de Dieu pour les hommes, en leur donnant, au fond, tout ce qui est nécessaire à leur vie. Et dans beaucoup de poèmes, on trouve ça. pas seulement de Sallust Subartas, mais des contemporains. Par exemple, dans un poème que j'ai lu l'autre jour, c'était un poème de Jean de Garros, dans lequel, bon, il le dit explicitement, c'est le paradis. Donc, cette vision, elle est aussi portée par Joseph de Pescidou. Et son livre, il l'écrit, il le dit explicitement, je l'écris pour que les habitants qui l'ont quitté reviennent dans ce pays. Magnifique tentative pour un écrivain.
Alors, il y a un personnage extrêmement important, et même aujourd'hui, c'est grâce à Alexandre Dumas, cette grande figure, hein, gersoise, gasconne, de D'Artagnan. Est-ce que vous pouvez nous parler, c'est un peu un mythe du cadet de Gascogne?
Bon, le mythe du cadet de Gascogne ne démarre pas avec Dumas. Hein. Il faut voir qu'il est beaucoup plus ancien.
Ça rappelle un peu Don Quichotte.
Voilà. Et ça renvoie, au fond, à l'écho de Don Quichotte. Hein, la figure de D'Artagnan étant un peu celle de ce Don Quichotte. Alors dans mon livre, j'ai été un peu plus loin que dans le temps et j'ai découvert quelque chose que collectionneur, j'avais trouvé un peu par hasard, qui est cette œuvre de... j'ai du mal à trouver le nom. Maintenant, je n'ai plus le... Il faut que je regarde dans... pardon, je suis obligé de m'arrêter là. Paysage et Gascon. Dumas. J'ai le nom qui ne me revient pas. Voilà. Qui est le personnage d'Edouard Ourliac, qui était on appellerait ça un pigiste. C'est-à-dire quelqu'un qui écrivait dans les journaux, en particulier dans des journaux connus de l'époque. Mais il est sélectionné pour un ouvrage qui s'appelle « Les Français par eux-mêmes » et qui est paru en 1842, 2 ans avant les Trois Mousquetaires de Dumas. Et je sais, pour l'avoir lu, qu'il est en communication avec un certain Alexandre Dumas. Donc on peut penser qu'il y a quand même une... Et ce que fait Ourliac, c'est donner justement l'image d'un Don Quichotte. Et là, il écrit sur le Gascon, paraît, parce que c'est près de l'Espagne, parce que c'est dans l'esprit de l'époque, un peu, déjà un peu, c'est un peu l'Espagne, hein. Vous voyez, d'ailleurs, je l'ai découvert aussi en travaillant même sur les sciences. Par exemple, cette sociologie de Le Play, nous trouvons chez Le Play, cette idée que la famille est inspirée par celle qui se trouve plus au sud et même celle des nomades du Maghreb. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'intéressant. Bon, j'en reviens à D'Artagnan. D'Artagnan est dit dans ce qu'on appelle l'incipit, c'est-à-dire le début d'une œuvre est toujours pour l'auteur une manière de dire, eh bien, avant de donner le nom de D'Artagnan, à 4 reprises, il parle d'un Don Quichotte, il est sur un bidet qui est aussi, comment dirais-je, étrange que Rocinante, par exemple. Il définit aussi cet esprit belliqueux, un peu celui de Don Quichotte, hein, qui croise le fer volontiers. Et donc, là, le début des Trois Mousquetaires, c'est le type gascon. Voilà. Donc, soucieux de l'honneur, mais ayant une certaine générosité, prêt à prendre des valeurs nobles, en quelque sorte, de l'époque, celles du chevalier. Donc, c'est un chevalier, et bon, Alexandre Dumas va reprendre, en quelque sorte, cette vieille idée. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que il y a, dès presque le temps d'Henri IV, cette image du cadet de Gascogne qui se définit et qui va se télescoper, ça c'est certain, dans le théâtre avec la Commedia dell'arte. Et là, il y a quand même... ceci a été étudié, je n'ai pas inventé ça. J'ai été le chercher chez Véronique Larcade, qui a travaillé sur les capitaines gascons, qui sont aussi extrêmement valorisés, et c'est l'image de D'Artagnan aussi, parce que ce sont des gens qui sont des militaires, et des militaires particulièrement appréciés par les rois. Et appréciés aussi pour leur fidélité à une personne. Et surtout, princière, royale. Enfin bon, ce sont des gens sur qui on peut compter. Et c'est l'image du Gascon.
Je vous remercie. Je vais rappeler une dernière fois le titre de votre ouvrage, « Regard sur la Gascogne gersoise », édité aux éditions Kern. Robert Sourp, merci beaucoup.
Voilà. Merci beaucoup pour vous.
Voilà, à l'instant, c'était Robert Sourp qui nous parlait de son livre « Regard sur la Gascogne gersoise ». Il était interrogé par Pauline Cazier, notre correspondante dans le Gers.